Tolstoï par Elie Albirine Kaminski. Un de nos confrères rapportait à Léon Nikolaïevitch Tolstoï que, voyageant un jour en Crimée et causant avec un juge de paix des environs, il avait reçu de lui cette déclaration énergique : Tolstoï, mais il vivra aussi longtemps que moi, et je vivrai 120 ans. À quoi le grand homme de Yasnaïa Poliana répondit avec un bon sourire : alors il faudrait bien que je me résigne, puisque c'est un juge de paix qui l'a dit. » Et toute la vaste tablée de la famille et des familiers de Tolstoï d'éclater d'un rire soyeux et de battre des mains. Mais qui donc ne lui souhaite longue vie à ce grand homme et ce grand écrivain, le seul dont la parole ait remué le monde depuis Victor Hugo ? Il n'est pas qu'au sien, il n'est pas qu'à la Russie, il appartient au monde entier. Et quel qu'était le talent des écrivains de sa nation qui le précédèrent, c'est la première fois que le monde slave présente un génie d'un caractère aussi universel. C'est pour cela que tous les regards de la terre se tournent vers ce coin reculé du gouvernement de Toula, au moment où les compatriotes de l'auteur de Résurrection célèbrent le 80e anniversaire de sa naissance. Les Russes sont fiers de Tolstoï, qui marque un moment précieux de la marche de leur civilisation. L'accession définitive de la Russie au concert des nations qui ont enrichi le patrimoine spirituel de l'humanité. Le comité d'initiative qui s'était formé à Saint-Pétersbourg a lancé à cet effet un appel où l'on lit notamment « La gloire de Tolstoï a depuis longtemps franchi les limites de sa patrie. Depuis longtemps, le monde entier suit avec une attention ardente le travail de sa belle conscience, car mieux que quiconque, il a exprimé l'idée d'une humanité une et indivisible, celle qui cherche, sous toutes les latitudes, la solution des mêmes problèmes séculaires. » Il convient de noter que cet appel est l'œuvre d'un comité qui comprend les représentants les plus autorisés des tendances les plus variées des lettres, des arts, de la science, de la politique russe. Le gouvernement russe lui-même, malgré son peu de sympathie pour les doctrines professées par Tolstoï, s'incline respectueusement devant cette grande figure. Son organe officieux, la Rossiya, se joint au concert d'hommage qui salue ce jubilé. Il rappelle que Tourguenieff appela Léon Tolstoï le grand écrivain de la terre russe, dit qu'il est l'orgueil de la Russie, un saint, un rare phénomène social. Et c'est tout de même un spectacle réconfortant que cette unanimité du monde civilisé a célébré le génie et la vie en beauté. Quelle vie ! Commencée en ce Yasnaïa Poliana, où elle s'éteindra sans doute, elle s'en écarta par instant. Mais toujours, elle revint s'y retremper dans la contemplation de la calme nature, au contact de l'âme simple et poétique des moujiks que Tolstoï aime par-dessus tout, et qu'il considère comme les régénérateurs constants de la civilisation, comme la source de toute sagesse. Une vie qui se noua dans le tumulte des plaisirs, de l'indiscipline, de la violence, pour aller s'épanouir en vertu en passant par l'art magnifique, une vie intense et forte, qui connut toutes les beautés jusqu'à l'ultime des espérances. Léon Nikolaïevitch Tolstoï nous a lui-même dit son enfance, sa tendre enfance, comme il dit, passée à Yasnaïa Poliana, dans un paysage délicieux que coupe la forêt de Zazieka. Il raconte son premier souvenir, son premier éclair de conscience. Il ne se rendait pas compte que c'était un berceau bien bordé qui l'enserrait, mais il se sentait prisonnier. Il prétendait dégager ses bras et il pleurait, et son cri lui était désagréable à lui-même, sans qu'il pût s'arrêter. Cette première impression de la vie de Léon Nikolaïevitch, c'est le symbole de toute cette vie. Il n'a plus cessé de s'efforcer à se libérer de toutes les entraves que nous imposent les préjugés. « Je sentais, dit-il, l'injustice et la cruauté du sort, et je m'attendrissais sur moi-même. Ce fut la première et la plus forte impression de toute ma vie. » Impression philosophique. Un autre souvenir primitif nous annonce l'artiste qui, dans l'âme de Tolstoï, ne cessera de lutter avec le philosophe. On l'avait mis dans un bain de son et, pour la première fois, je remarquais et j'aimais mon petit corps, et le baquet poli, et les bras découverts de ma vieille bonne, et surtout, cette sensation des bords lisses et mouillés du baquet quand je passais les mains dessus. Je ne sais plus à quelle occasion Tolstoï a dit qu'il avait soudain compris qu'il ne serait pas en tout pareil aux autres hommes. Il fit en effet toujours preuve d'un caractère original, excentrique. Sa sœur Marie Nikolaïevna raconte qu'un jour, à l'heure du déjeuner, il trompa la surveillance de son gouverneur Saint Thomas pour mettre à exécution une prouesse dont le désir lui avait traversé l'esprit. Il grimpa sur une fenêtre ouverte et, d'une hauteur d'environ 5 mètres, sauta dans une cour. Par bonheur, il ne se brisa rien. Mais la secousse fut telle qu'ensuite, il dormit 18 heures sans désemparer. Une autre fois, fâché de ne pas être beau, disgrâce qui le tourmenta pendant toute sa jeunesse, il s'avisa de se rendre plus laid en se coupant les sourcils. On juge de l'effet sur la famille du bambin. Une autre fois encore, la voiture dans laquelle les enfants se promenaient ayant fait halte, il se cacha, fila devant, se mit à courir quand la voiture le rattrapa, et refusant d'y prendre place, courut ainsi jusqu'à ce qu'il tombât à bout de force. Ou bien il entrait dans le salon à reculons, saluait de toute la partie postérieure de son corps en rejetant la tête en arrière et en joignant les talons. N'était-ce pas déjà là une manière de protestation caricaturale contre l'arbitraire et la minutie des règles de l'étiquette? Il lui arriva un jour de battre sauvagement un vieux cheval déjà fatigué par ses 3 frères et qui ne pouvait plus réaliser les exercices que le jeune Léon exigeait de ses jambes usées. Et il s'était mis dans une colère folle et il cravacha tour de bras quand le sous-maître s'interposa et lui représenta avec indignation qu'un vieux serviteur comme Voronok, c'était le nom de la bête, était en quelque chose comparable à un vieillard et méritait plus d'égards. Toute la colère de Tolstoï tomba. Dans un soudain retour sur lui-même, il sauta à terre et, embrassant le cou mouillé de sueur du pauvre animal, les larmes aux yeux, il lui demanda pardon de l'avoir battu. Tout cela, c'est la sourde annonce de la lutte qui devait se perpétuer entre une volonté impulsive et une conscience scrupuleuse. À travers la vie, à travers son œuvre, il semblerait qu'ainsi que le veulent quelques commentateurs tolstoïsants, Léon Nikolaïevitch ait bien été un, et moins divers qu'il ne le croit lui-même. Il nous a dit sa jeunesse, ses études à l'université de Kazan, ses essais d'occupation agricole, sa vie militaire au Caucase, à Sébastopol. Avec une noblesse admirable, il a confessé les débauches de sa vie de jeune homme et ses erreurs, et ses violences et sa folle passion du jeu, et ses alternatives de souffrance morale et de bonheur familial, ses joies artistiques quand le succès lui vint, et ses doutes, et ses crises morales, et l'illumination de son âme, alors qu'il découvrit ce qu'il croit de tout son cœur être la vérité, le sens juste de la vie, et qu'il commença son apostolat. Mais quoi qu'il en ait, Tolstoï est avant tout un artiste. Maintenant il renie la guerre et la paix et Anna Karénine, œuvre superbe, qui ont commencé sa gloire. Il nie l'art. Il n'admet plus que la vie vécue, naturelle, le travail manuel, la pensée humanitaire, la fraternité. Mais quand il écrit par exemple « Résurrection », en dépit d'une négligence voulue, affectée même, pourrait-on dire, s'il ne s'agissait d'un tel homme, il emploie malgré lui tous ses dons d'observateur, d'écrivain précis, d'artiste. Sa femme, la comtesse Sophie Andreïevna, l'a dit. Il est beau, certes, de faucher, de labourer, de fabriquer des objets utiles, mais cela, tout le monde peut le faire. Qui donc écrirait une autre Anna Karénine? Or, un obstacle et le plus inattendu, s'est dressé devant les initiateurs du jubilé. Tolstoï se refuse à se laisser fêter. Et pourtant, aucun de ceux qui ont approché le maître ne s'étonne d'un pareil refus de la part de celui qui ne cesse de répéter « Honorez Dieu et non les hommes ». Lors d'une visite que je lui rendis à l'occasion d'une fête familiale que lui offraient les siens pour célébrer en même temps le 50aine de son entrée dans la littérature et le 40aine de son mariage, je fis allusion à l'approche de son jubilé. Il me répondit avec une pointe d'humeur « Je n'y pense pas et ne veux pas y penser. Ces commémorations me sont insupportables, qui n'ont d'autre effet que d'exciter l'envie chez les autres et la vanité chez moi. Pourquoi célébrer les œuvres inutiles que sont Guerre et Paix et Anna Karénine? Quant à la deuxième partie de mon œuvre, celle que je crois utile, ce n'est pas en festoyant qu'on l'honorera, mais en pratiquant dans la vie quotidienne les principes chrétiens trop oubliés que je ne cesse d'y rappeler depuis 25 ans. En effet, il y avait juste 25 ans depuis la crise terrible qu'a vécu Tolstoï, où il a failli sombrer. Ce jour-là, rentré le soir dans la chambre d'amis du rez-de-chaussée, j'eus de la peine à m'endormir. La barre supérieure de la porte pratiquée dans la cloison qui sépare la chambre d'amis de la bibliothèque fascinait mon regard. C'est sur cette barre que 25 ans auparavant, Tolstoï, riche, glorieux, époux et père heureux, avait attaché un nœud coulant et qu'il allait se pendre. Ayant perdu sa foi naïve de la prime jeunesse, pour ne trouver dans l'athéisme qu'une source de souffrance, puisqu'il fermait la porte à l'idéal, au Dieu amour, sans lequel la vie ne valait plus la peine de vivre, il résolut de mourir, lorsqu'au moment suprême, le salut lui apparut en la pure doctrine évangélique telle que la pratiquaient les premiers chrétiens. Depuis, il s'est efforcé et s'efforce encore d'appliquer à sa propre vie l'enseignement du Christ, qui fait le fond de tous ses derniers écrits. Il l'appliqua à la lettre en travaillant de ses mains, faisant des bottes, fauchant et labourant, aidant les paysans du Isnaïa Poliana dans la construction de leur maison, en restreignant au strict nécessaire ses besoins, évitant de recourir au service d'autrui. Je me souviens que lors d'une de mes premières visites à Tolstoï, après des hésitations bien explicables, je me résolus à lui poser cette terrible question : vivez-vous selon ces principes que vous prêchez ? Je vous le dis, en toute conscience, je fais tout ce qui dépend de moi pour cela, et si je ne réussis pas absolument, ce n'est pas faute de volonté. J'avais mis le doigt sur la plaie vive. En dépit de leur amour et de leur respect, Tolstoï n'a pas réussi à convertir entièrement les siens à ses doctrines et les entraîner à sa suite, dans toutes les conséquences qu'elles comportent logiquement. Mais il se tait, et jamais il n'accuse que soi. « Je suis un homme faible, écrit-il dans une lettre, et qui garde des habitudes perverses, un être médiocre, mais aspirant de toute mon âme à devenir bon. » On sait en quoi la bonté consiste pour l'apôtre d'Isnaïa Poliana, mais peut-être n'est-il pas inutile de résumer brièvement son enseignement. Tolstoï est chrétien, mais non pas à la façon de l'Église orthodoxe russe. Il s'en tient à quelques préceptes du sermon sur la montagne. Il ne croit pas à la vie future individuelle. Pour lui, le salut est ici-bas dans une bonne vie selon ses principes. Vivez en paix avec tous et chacun. La colère n'est jamais légitime. Regardez le mariage comme indissoluble. Ne prêtez pas serment. Ne résistez pas au mal, au méchant. Supportez toute violence d'où qu'elle vienne. Ce précepte est la base de son système. Aimez vos ennemis, qu'ils soient vos compatriotes ou des étrangers. Pas de luxe, limitez vos besoins. Aimez la nature et le travail manuel. Servez-vous vous-même. Croyez aveuglément en Dieu, qui est le beau, le vrai, le bien, l'amour en un mot. Tous les hommes se valent. Et quand il a écrit, fauché, manié la laine ou la charrue, il trouve encore le temps de se promener dans les bois de Isnaïa Poliana, à cheval jusqu'à ces derniers temps, de causer familièrement avec les moujiks, de s'asseoir sur quelques bancs retirés et de rêver en contemplant la nature. Il se trouve heureux, heureux. Il lui semble qu'il n'a plus rien à demander. Si, cependant, Tolstoï voudrait souffrir pour ses idées, ce serait pour lui le suprême bonheur. Il voudrait être enfermé dans quelque prison sale et puante, et où il souffrirait, et où il aurait froid et faim. Cela commémorerait à merveille son 80e anniversaire, et comme il me le dit, le débarrasserait du même coup de tous les ennuis de son jubilé. Mais hélas, le grand vieillard sait bien qu'au contraire, il est le seul en Russie à pouvoir dire toute sa pensée. « Et j'en profite, » me dit-il un jour. Son homonyme, le comte Tolstoï, alors ministre de l'Intérieur sous Alexandre III, voulut, avec Pobedonodzev, le fameux procureur du Saint-Synode, faire enfermer Tolstoï dans un monastère avec défense de jamais écrire au public. Le tsar répondit sèchement à son ministre « Je vous défends de toucher à Tolstoï. Je ne tiens nullement à en faire un martyr, ni à soulever contre moi la Russie et l'étranger, la réprobation universelle. » Telle est la raison de l'impunité surprenante dont jouit le grand subversif. On s'est contenté d'excommunier l'écrivain, mais toute la Russie reconnaissante a pieusement communié dans un filial hommage à celui dont le génie l'a faite majeure. Au sujet de son jubilé, Tolstoï me disait « Quel problème pour moi ! Comment ne pas chagriner mes amis et d'autre part ne pas augmenter l'irritation de mes ennemis ? Comment ne pas être un ferment de discorde entre les hommes ?» Ce moyen, un des proches amis de Tolstoï, M. Tcherkov, l'a trouvé. Depuis qu'il tenta de distribuer ses biens, l'hôte d'Isnaïa Poliana n'en est plus le maître. Ils appartiennent à sa famille. Eh bien, par une souscription publique, on les rachèterait et on les offrirait en propriété commune aux paysans. Une grande partie des fonds nécessaires est déjà recueillie, principalement en Angleterre et en Amérique. Quand son ami lui fait part de ce projet, Tolstoï s'écria « Ce serait pour moi la suprême joie. Comme je voudrais m'y brasser pour voir le bonheur des paysans. » Car Tolstoï, dont la robuste constitution a été minée plusieurs fois dans ces dernières années par de terribles maladies, Tolstoï pense constamment à la mort qu'il croit proche. Parfois il dit « Je suis heureux, mais j'attends un autre bonheur. Déjà, il approche. » Il a désigné l'endroit où reposera son corps de grand homme et surtout de brave homme, puisque, dit-il, il faudra l'enfouir quelque part. En souvenir de son frère Nicolas, il veut être enterré à l'endroit où, encore enfant, celui qu'il appela Nikolenka avait caché lui-même un petit bâton vert, sur lequel il affirmait puérilement qu'était écrit le moyen de rendre les hommes heureux. C'est au bord d'un petit ravin qui se nomme Stary Zakaz. Elie Alperine Kaminski.